Le programme Apollo.
Le programme Apollo.
5, 4, 3, 2, 1.
Le magazine du Collège Paul Bert. Actu,
interview,
culture,
sport,
cinéma,
littérature,
actu du collège,
blagues,
le programme Apollo,
les étoiles de l'info,
jusqu'au bout de la news.
Jusqu'au bout de la news.
Bonjour tout le monde, bonjour Paul Bert, j'espère que vous allez bien. En tout cas, aujourd'hui, il fait beau, alors profitez-en pour sortir. Mais pour l'instant, restez à l'écoute de Radar pour le programme Apollo. Aujourd'hui, vous allez pouvoir écouter une émission spéciale sur les femmes pour le 8 mars. Bon, c'est déjà passé, mais c'est pas grave, c'est l'intention qui compte. On va donc commencer par Mathis qui va nous présenter les actus du collège. Comment vas-tu ?
Je vais bien, et vous ?
Bien. Ensuite, nous allons continuer avec un autre Mathis qui va nous présenter la double vie des femmes. Comment allez-vous ?
Bah, ça va, et toi ?
Bah, toujours bien. Mathis va nous présenter aussi une autre chronique. Qu'est-ce que ça va être, du coup ?
Sur le droit de vote.
D'accord. Ensuite, nous allons avoir Selena et Morgane. Comment allez-vous ?
Bien.
Vous allez nous présenter quoi, du coup ?
Les femmes de l'ombre.
D'accord. Et ensuite, nous allons avoir Océane. Comment vas-tu ?
Ça va.
Donc, tu vas nous présenter la première femme à avoir fait un marathon, c'est ça ?
Oui.
Ok. Et ensuite, nous allons voir Laurette. Comment vas-tu ?
Bien, et toi ?
Bien. Qui vas-tu nous présenter ?
Annette Kellerman.
Et pour finir, nous allons avoir Célestine qui va nous présenter la femme à barbe. Comment vas-tu ?
Oui, ça va.
Okay.
Je me permets une petite intervention. C'est rigolo parce que t'as tutoyé toutes les filles et t'as vouvoyé les gars. C'est drôle. Enfin voilà, je te laisse continuer.
Nous allons pouvoir commencer avec les actus du collège par Mathis.
Le programme Apollo, les infos à la vitesse de la lumière.
Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter les actus du collège. Les Minimes sont champions inter-académiques. Ils ont joué hier et ils ont gagné. Ils sont qualifiés pour la finale de France. Ils joueront le 28 et 29 mai à Tours. La danse fera un spectacle le 15 mai à la Forge de la Fleur. Vous êtes tous attendus nombreux. Les 5e de Madame Crochard ont collecté les bouchons de toutes les classes. Résultat, les 6e 4, les 5e 2 et les 4e 5 ont gagné. Total de bouchons récoltés du collège, 199,7 kg. Bravo le collège.
D'accord. Nous allons donc continuer avec la double vie des femmes par un autre Mathis.
Le programme Apollo, les infos à la vitesse de la lumière.
Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter la double vie des femmes. Suite à l'enquête que nous avons menée, nous avons récolté déjà 400 questionnaires des 6e, 5e et 4e. Nous n'avons pas fait les 3e parce qu'ils étaient en voyage et en stage. Donc, sur la double journée de travail des femmes, dans le cadre de la journée sur les droits des femmes, voici ce que l'on a pu retenir. Une part très majoritaire des femmes et des hommes travaillent, de nombreuses personnes sont donc concernées par la double journée de travail. Cependant, on peut observer que lorsque l'un des deux parents seulement s'occupe d'une tâche à la maison, il s'agit presque toujours des femmes. Par exemple, qu'un seul parent gère les rendez-vous médicaux, les enfants, c'est la femme qui s'occupe de tout, du coup. En fait, qui s'occupe, qui est vraiment... Qui emmène vraiment à chaque fois les enfants aux activités scolaires.
En fait, tu as des chiffres. Hein. C'est pour 35% des rendez-vous médicaux, c'est la femme qui les prend.
Pratiquement, oui.
Je lis ta chronique en même temps. Ouais. Et alors, ça, sur toutes les personnes interrogées, c'est-à-dire qu'il y a eu 400 questionnaires et 35% de ces 400, c'est des femmes qui prennent les rendez-vous. Donc, c'est moins que la moitié, finalement.
Oui.
Donc, c'est pas toutes les femmes qui prennent les rendez-vous.
Non, mais la plupart.
La plupart, mais donc ça veut dire que le reste, 65% des hommes prennent les rendez-vous.
Oui. prennent les rendez-vous. Mais en fait, c'est les femmes qui accompagnent plutôt aux activités scolaires, aux médecins, tout ça.
Et donc, ah oui, donc 4,3% des hommes, voilà, c'est ça qu'il faut préciser. Parce que sinon, on a l'impression que c'est tous les hommes qui font le truc, alors ouais. qu'en fait, non.
Après, on mettrait un petit graphique dans le collège pour ceux qui veulent plus s'intéresser.
Ok. On continue. Qu'est-ce que tu as d'autre comme chiffre ?
Eh bien, du coup, là, j'ai. Le nettoyage de la maison revient aux femmes dans 35,9% des cas, contre seulement 4,7% des hommes, quand il fait part une seule personne de la maison, et l'écart est encore plus grand quand il s'agit d'acheter les vêtements des enfants.
Ah ouais, ça, les fringues, les hommes, nous, on est nuls pour trouver des pantalons à la bonne taille, les t-shirts, on sait pas, on se repère pas les étiquettes. Vous êtes vachement balèzes, les filles, parce que ouais, mais non, mais c'est du M, mais c'est une taille américaine, donc faut calculer dans l'autre sens et tout, machin.
Ouais,
il y a des trucs. Alors après, qu'est-ce qu'il y a on sait pas faire le ménage non plus, a priori. Donc ça, c'est des trucs.
Ça
a
rien fait.
Ça a pas bougé, hein, mine de rien.
Ça fait depuis très très longtemps que ces chiffres-là n'ont vraiment pas bougé.
Alors, le point d'ancrage, le point encourageant, donne-nous de la motivation pour nous les hommes.
Le point d'encouragement est qu'une partie importante des personnes interrogées a répondu que les hommes et les femmes s'impliquaient dans les tâches de vie quotidienne, comme qui préparent le repas, qui s'occupent des enfants, qui jouent avec les enfants, qui aident la famille de voir, qui est, rappelons, le concerner le soin aux enfants, la préparation des repas, donc comme je vous l'ai dit, la gestion de l'entretien de la maison, le soin des animaux, l'entretien du jardin, du linge, des courses.
Ok.
Après que des choses.
C'est des tâches qui sont plus faites ensemble, mais quand effectivement il y a qu'une seule personne au foyer, c'est souvent la femme qui s'y colle en fait.
Ouais.
Ok. Et donc à l'échelle nationale du coup.
Donc à l'échelle nationale, l'Observatoire des inégalités rappelle que les femmes consacre 3h26 aux tâches domestiques par jour, contre 2h pour les hommes. Et ce sont surtout les femmes qui réduisent leur temps de travail afin de s'occuper des enfants. 80,1% de salariés à temps partiel sont des femmes. L'écart est donc encore important, malgré les changements observés dans certaines familles.
Et oui, et en fait, nous, le ménage, pourquoi on passe moins de temps à faire du ménage ? Pourquoi on passe 2h plutôt que 3h, combien ? 3h26.
Parce qu'on est des flemmards.
Bah parce qu'on dit, on passe un petit coup d'éponge et puis on dit, voilà, c'est propre, c'est bon.
Oh, c'est
allez.
Entièrement bon.
On s'en fout. Alors.
Donc, alors, je tiens à remercier Clémence, Mélodie, Monsieur Clément et Madame Crochard d'avoir participé avec nous à ce projet sur la double vie des femmes. Bon, de base, il devait y avoir Malone avec moi, mais vu qu'il est malade aujourd'hui.
Eh ben, on lui fait un petit coucou à Malone. On lui souhaite un bon rétablissement. Et donc, c'est quand même assez révélateur. Mine de rien, parce que c'est pas juste un petit questionnaire qui a été diffusé comme ça à 20 personnes. 400 personnes qui ont répondu, et les chiffres, même si c'est pas des chiffres nationaux, sur 400 personnes, déjà, c'est assez énorme de voir les écarts.
400, on n'est pas sûr, parce qu'on a fait quand même les 6e, 5e et 4e. On n'est pas sûr vraiment que ce soit 400 questionnaires. On a mis ça
aux environs de 400, en tout cas.
Oui, on pense.
Voilà. Mais vous avez des résultats qui sont assez probants, les fourchettes. Alors, comment ça se passe pour vous à la maison, du coup ?
Moi j'ai des parents séparés donc.
Ouais, donc voilà. Papa il est obligé de faire le ménage chez lui.
Ah, ça c'est notre plus grand problème justement. En fait, on aurait dû demander avant ceux qui avaient les parents séparés parce que ça nous a posé beaucoup de problèmes. Genre, quand ils ont mis à chaque fois les deux à chaque question, ça nous a vraiment posé beaucoup de problèmes à compter. Du coup, on aurait dû poser la question, c'est notre plus grand regret, je pense.
Et ouais. Mais après, si vous voulez réagir, je sais pas comment ça se passe pour les parents qui sont pas séparés, qui ont... Rose.
Moi, c'est à peu près équilibré. Il y a quand même... Enfin, ils se répartissent les tâches entre eux, quoi.
Ouais, ça va. Ils rechignent pas trop à passer l'aspirateur, papa, ou à nettoyer les toilettes ?
On a un aspirateur robot, donc ça va.
Ah ouais, vous avez un robot. Donc déjà, ça enlève une partie du truc, quoi. Et donc, les toilettes, qui est-ce qui les fait ? Mais il faut bien les faire. Attends.
On tire la chasse.
Et puis il faut nettoyer quand même. T'as des bactéries qui se déposent sur la lunette, etc. Regarde, quand t'as des fringues sales, ta maman ou ton papa, ils mettent les mains dans tes slips et tes chaussettes sales, mon gars. Et ils mettent ça dans la machine à laver. Pour toi, pour que tu sois propre. Tu te rends compte un peu ?
Merci papa, merci maman.
Merci papa, merci maman. On va faire, en tout cas, merci pour cette enquête très très intéressante.
J'ai un peu bégayé.
Ça montre effectivement que il y a encore vachement de boulot pour que les mecs s'y mettent. Est-ce que vous faites un peu le ménage, vous les gars là, qui êtes autour de la table? Ouais, tu fais dans ta chambre, c'est rangé ou pas? Ouais, je sens que t'es pris de la gorge. Attends, on va donner la parole à l'autre Mathis. C'est rangé dans ta chambre?
Ah oui, oui, moi aussi. Je dirais pas, je passerai l'aspirateur tout le temps, mais.
Ouais, il voilà, y a pas trop de poussière problème. Sur le clavier de l'ordi. Ça va? Donc c'est peut-être le seul truc propre de la chambre en fait.
Ouais.
Ouais.
Bon, moi, mais même pas que vous rentrez dans ma chambre.
D'accord. Ouais, donc il y a des efforts à faire.
Tu pourrais.
C'est bien.
Tu pourrais même pas y retrouver.
Je vous le confirme. Allez, on va passer tout de suite à la prochaine chronique. Je te laisse continuer la présentation de cette belle émission qui est le programme Apollo sur Radar.
Du coup, nous allons continuer avec le droit de vote des femmes par Mathis. Le programme Apollo.
Le magazine du Collège Paul Bert.
A fait quoi ? Sur Radar.
Rebonjour, c'est encore moi, Mathis. Je vais vous présenter aujourd'hui le droit de vote des femmes en France. Le droit de vote en France est très récent. Il n'a été instauré qu'en 1848 pour les hommes. Déjà plusieurs dizaines ou centaines d'années de retard face à d'autres pays. Le droit de vote des femmes en France sera cependant encore plus attendu, obtenu le 21 avril 1944, 96 ans après celui des hommes. De ces femmes ayant combattu pour le droit de vote en ressort Olympe de Gouges, s'étant révoltée après l'apparition de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Elle rédige donc la Déclaration de la femme et de la citoyenne où elle écrira cette citation aujourd'hui célèbre. La femme a le droit de monter sur l'échauffard. Elle doit avoir également le droit de monter à la tribune. Ce combat pour le droit de vote a commencé après la Première Guerre mondiale où à ce moment les femmes avaient travaillé à la place des hommes, partis au front. Cette période a prouvé l'utilité des femmes au travail et a joué un rôle majeur pour la suite. Après la Finlande, la Norvège, le Danemark, l'Islande, l'Allemagne, l'Estonie, la Lettonie, la Pologne, la Lituanie, le Royaume-Uni ou encore la Bulgarie, la France s'accorde enfin à donner le droit de vote aux femmes le 21 avril 1944 et l'élection commence le 29 avril 1945. À l'issue du scrutin, 33 femmes sont élues et siègent à la première assemblée, constituant une mise en place par le général de Gaulle.
D'accord. Est-ce que quelqu'un a des questions déjà ou pas ?
Non. Non.
Alors moi, ce qui m'étonne, on t'a dit les faux chats ou les je sais pas quoi. En gros, la citation, c'est une femme a le droit de monter sur l'échafaud pour être exécutée, et donc elle s'est battue pour qu'elles aient le droit de vote aussi. Voilà, c'était surtout ça pour corriger un petit peu le truc. Alors vous rendez compte, il y a combien de pays qui étaient avant nous pour qu'on mette en place le droit de vote? C'est hallucinant. Il y en avait au moins une quinzaine avant qu'on s'y mette aussi. C'est arrivé super tard, hein, mine de rien.
Oui.
Vous imaginez, en fait, vos grands-mères, elles n'avaient pas le droit de vote quand elles sont nées.
Oui.
Eh oui, là, quand on replace dans le contexte, du coup, ça fait bizarre, ça rapproche vraiment le truc, quoi. Et donc, est-ce que... moi, j'aimerais bien savoir un petit peu ce que vous en pensez, les filles, parce que vous êtes nombreuses autour de la table, et qu'est-ce que vous pensez de tout ça, de ces droits qui arrivent en retard? Par exemple, il y a une loi napoléonienne qui a été éradiquée, là, en 2016, sur le port du pantalon. C'est-à-dire que jusqu'en 2016, normalement, les femmes n'avaient pas le droit de porter des pantalons. Vous vous rendez compte qu'on attende 2016 pour enlever ça dans la Constitution? C'est complètement fou. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça?
C'est bizarre, quoi. Enfin, voilà.
C'est pas trop normal, quoi. On a le droit de porter des pantalons si on veut porter des pantalons.
Oui, et puis le vote, etc. En fait, qu'est-ce que ça vous fait de naître fille, finalement?
Dans un
monde comme ça.
Je trouve ça normal qu'une fille puisse voter, c'est comme un homme. C'est juste le sexe qui change, mais...
on se pose la question de savoir, mais pourquoi, en fait, finalement.
C'est vrai, aussi, sans femme, il n'y aurait pas de progéniture, on va dire. Pas de génération. On est égaux.
On est égaux. Les femmes sont égales, mais les hommes et les femmes sont égaux, en gros. C'est fou aussi, ça, cette prédominance masculine sur l'écriture, sur les pluriels. Ah, il y en a partout, hein, des trucs comme ça, c'est fou. Il y a quelqu'un qui veut rajouter des petites choses?
Non.
Non. Ok, on va continuer un petit peu cette émission. Merci en tout cas Mathis pour ces précisions sur le droit de vote arrivé tardivement. Et puis bah, qu'est-ce que vous en ferez tiens, du droit de vote quand ça va vous arriver? Est-ce que vous y pensez à ça?
Bah, moi je voterai.
Toi tu voteras?
Moi j'irai voter et puis bah, je n'irai pas non plus suivre mon mari ou mon père, enfin un truc comme ça quoi.
Ouais, tu feras selon ta conscience et
oui.
Selon tes envies.
Oui, okay. Voilà.
Il y en a qui voteront pas du tout, qui n'auront pas envie de voter. Vous avez le droit, hein, c'est pas.
Bah, moi, j'y réfléchis pas, donc parce que c'est pas tout de suite.
D'accord, c'est pas tout de suite. Bon, on prend notre temps alors. Rose.
Non. Mais...
Non.
Enfin, du coup, j'irai voter moi.
Un jour.
Après, on a encore le temps. Hein,
ouais, vous avez le temps. Ça marche. Allez, on continue.
Donc, c'est Selena et Morgan qui vont maintenant nous présenter les Femmes de l'ombre.
Le programme Apollo. Les infos à la vitesse de la lumière.
Donc du coup, nous, on va vous présenter les femmes de l'ombre. Donc c'est des femmes qui se sont fait voler la vedette de leur découverte ou de leur création par des hommes. Donc cela s'appelle l'effet Mathilda. On en parle lorsque des hommes s'approprient le travail intellectuel et intellectuel des femmes pour s'en attribuer les mérites.
Donc comme Lise Meitner, physicienne née en Autriche à Vienne, en 1878, Lise Meitner a découvert en 1938 la fission atomique. C'est un phénomène par lequel un noyau atomique lourd formé d'un grand nombre de nucléons est coupé en deux. Sa découverte a été attribuée à Otto Hahn et son assistant Fritz Strassmann. Un nucléon est une particule du noyau atomique.
Ou alors Cecilia Payne-Gaposchkin, née en 1900 au Royaume-Uni. Elle est astronome. Elle a découvert la composition des étoiles en 1925. Elle a découvert que les étoiles sont composées à 99% d'hydrogène et d'hélium. Sa découverte a été volée 4 ans plus tard par Henri Roussel.
Ou alors Esther Lederbeg, née en 1922 dans le Bronx. C'est une microbiologiste qui a découvert la génétique des bactéries. Son mari a été nobélisé pour leurs travaux communs avec son premier mari Joshua Lederbeg. Il développe une technique utilisée en laboratoire. Mais sauf Joshua reçoit en 1958 le prix Nobel de médecine.
Ou alors une femme qu'on connaît presque tous, Milara Marik Einstein, plus connue comme l'épouse d'Albert Einstein. Ils ont divorcé en 1896. Elle a résolu beaucoup de problèmes mathématiques de son mari. Elle est née en 1875 à Tittel en Sibérie. C'est donc elle qui a résolu beaucoup de problèmes de son mari, mais elle n'a jamais eu de mérite comme toutes les autres femmes que nous avons citées.
Mais il y a bien d'autres femmes encore qui ont eu ce problème.
On saute sur les boutons parce qu'il faut ouvrir les micros et tout ça. Ok, ben merci. Enfin, je sais pas, Rose, si tu veux faire la transition, vas-y.
Mais, oui. Mais ça se fait pas parce qu'elle aurait dû être remerciée pour ce qu'elle a fait.
Ah ben, toutes dans l'ensemble. Et encore, comme vous disiez dans votre chronique, s'il n'y avait que celle-là, bon, à la rigueur, bon, et encore, même pas. Mais le truc, c'est qu'elles sont pas toutes seules. Il y en a eu énormément des vols d'idées ou de brevets ou de choses comme ça, quoi.
Parce que même pendant nos recherches, on a été obligé de sélectionner un peu des femmes parce qu'il y en avait tellement que si on les aurait toutes fait, ça aurait duré toute l'émission.
Et il y a un bouquin d'ailleurs qui existe, alors je pourrais pas citer le nom ni l'éditeur etc, mais il y a un bouquin qui recense une majorité des femmes justement qui se sont fait flouer, les femmes de l'ombre. Et puis on dit toujours, derrière un grand homme de pouvoir il y a toujours une femme derrière. Je sais plus qui disait ça non plus, mais voilà. Oui,
il y avait aussi l'abbé Pierre, c'était, je me souviens plus du nom, mais il y avait aussi une bonne sœur qui l'a aidé
Dans tout son travail, enfin tout ça quoi.
Ouais, en fait, lui, il a bénéficié finalement de la médiatisation, c'est-à-dire que c'est lui qui parlait aux caméras, donc comme c'est lui qu'on voyait en premier, fatalement, la personne qui était derrière, on l'a pas vue. Et voilà, et malheureusement, c'est comme ça. Et ce qui est fou, c'est que là, le truc qui m'a passionné pendant des années, c'est cette femme-là, justement, qui a découvert la composition des étoiles par la réfraction lumineuse, ou en tout cas la décomposition de la lumière. C'est elle qui a fait le lien entre la décomposition de la lumière et, vous voyez, quand on regarde un arc-en-ciel, par exemple, en fait, les fréquences qu'il y a de couleurs dans l'arc-en-ciel, en fait, chaque couleur correspond à des éléments du fer, aluminium, hydrogène, etc. Et donc, en fonction de l'épaisseur des couleurs dans l'arc-en-ciel, on sait de quoi est composé le soleil. Donc, pour chaque étoile, il y a une signature vraiment spécifique. Si le rouge est beaucoup plus faible dans l'arc, en fait, dans la décomposition, on arrive à définir justement qu'il y a moins de... je ne sais pas ce qui fait le rouge là-dedans, mais bref, c'est passionnant. Intéressez-vous à toutes ces recherches, vous allez découvrir plein de trucs. Et merci à toutes celles qui ont justement œuvré pour que la médecine, la science avance, etc. Même le sport aussi. On va voir, je pense, dans les différentes chroniques justement de chacune, qui a eu pas mal de femmes exceptionnelles. Rose.
Oui, du coup, on va avoir des femmes qui ont travaillé dans le sport. Avec Océane, du coup, qui va nous présenter la première femme à avoir fait un marathon.
Le programme Apollo,
le magazine du Collège Paul Bert,
a fait quoi ?
Sur Radar.
Le 19 avril 1967, à Boston, aux États-Unis, une femme du nom de Catherine Switzer, à l'âge de 20 ans, devient la première femme à prendre officiellement le départ d'un marathon. Les femmes n'ont pas le droit de courir plus de 800 mètres en compétition. Pendant cette course, elle a été agressée physiquement par des hommes qui ne voulaient pas qu'elle participe au marathon. Les femmes n'avaient pas le droit de courir car les hommes pensaient que les efforts physiques étaient trop longs et moches parce que les femmes portaient des robes. Pour s'inscrire à ce marathon, elle a mis ses initiales K.V.Switzer et ils n'ont pas cherché plus loin. Les hommes ont remarqué que c'était une femme que pendant le marathon. Catherine Switzer nous raconte. Au départ, je n'avais pas réalisé que Jock Semple, le directeur de la course, me courait après. Soudain, j'ai entendu le bruit de ses chaussures en cuir sur le bitume. Je me suis alors retournée et j'ai fait face au visage, le plus furibard que j'ai jamais vu de toute ma vie. Semple me hurlait dessus. Dégage de là, sors de ma course. Il a réussi à agripper mon maillot, tenter d'arracher mon dossard. J'étais absolument terrorisée. Elle entraîna dans sa foulée des millions de femmes. Elle a ensuite préparé des marathons. Grâce à elle, le marathon des femmes a été accepté aux Jeux Olympiques en 1984.
C'est quand même à peu près 20 ans plus tard qu'ils ont accepté que les femmes courent un marathon.
Ouais, et puis encore une fois, c'est pas si vieux. 1984, vous imaginez ?
Moi, je sais que... Ma mère,
enfin, ça fait 40
était,
ans quoi.
Elle était déjà née et le marathon des femmes, ça existait toujours pas.
Mmh. Ouais, ça fait à peine 40 ans. C'est ça qu'il faut voir. C'est que, en fait, l'évolution des droits des femmes, quels que soient les domaines dans lesquels elles évoluent, il est très très long à se mettre en place en fait. Parce que, pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ?
Je sais pas, mais c'est quand même aussi bizarre qu'elle était obligée de mettre ses initiales pour pouvoir participer à une course.
Sinon après, ils allaient savoir que c'était une femme.
Mais ça devrait...
En fait, elle a mis ses initiales pour pas qu'on la reconnaisse. Enfin, que tu vois qu'ils pensaient que c'était un garçon et tout, et ils ont pas cherché plus loin à connaître qui c'était.
Il aurait presque fallu qu'elle se colle une fausse moustache sur la tronche pour pouvoir participer, ce qui est quand même assez dingue. Et ça rappelle aussi, imaginez dans le même genre, ça me fait penser à Mulan, je pense que vous l'avez tous vu, plus ou moins. Voilà, c'est pareil, une femme aussi qui voulait faire partie des armées et qui s'est travestie en homme pour pouvoir combattre. Donc des histoires comme ça, il y en a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup.
Il y a aussi une chirurgienne qui s'est transformée en garçon pour devenir chirurgien. Et elle a réussi. Et c'est que à sa mort qu'on a découvert que c'était une femme.
Tada, surprise. Rose.
Du coup, nous allons continuer avec Annette Kellerman, et c'est Laurette qui va nous la présenter.
Le programme Apollo,
le magazine du Collège Paul Bert,
a fait quoi ?
Sur Radar.
Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter l'histoire d'Annette Kellerman. Annette Kellerman est née le 6 juillet 1886 en Australie. Ses parents sont tous les deux musiciens. À l'âge de 6 ans, elle est atteinte de la poliomyélite, qui est une maladie infantile contagieuse touchant les membres inférieurs du corps et l'appareil respiratoire. Elle doit donc porter un appareil au niveau des jambes. Parmi les nombreux médecins qu'elle doit voir, un médecin lui recommande de pratiquer la natation pour stimuler ses jambes. Elle commence donc la natation synchronisée avec son appareil. À 17 ans, elle enchaîne les exploits. Plongeon de 28 mètres, traversée de Londres dans les eaux de la Tamise sur 27 km, course dans la Seine où elle termine 4e face à 27 concurrents masculins et première compétitrice. Elle a tenté à l'âge de 19 ans de traverser la Tamise à la nage. Elle n'y parvient pas et, au bout de 10 heures d'effort, elle abandonne. Annette est très engagée et revendique le port du maillot de bain moderne, court pour les femmes et la pratique sportive. À l'époque, les femmes sortaient très peu et restaient en permanence chez elles à s'occuper du logis. Également, sur les plages, les femmes devaient porter une robe et un pantalon pour se baigner, pour ne pas montrer trop leur corps. Mouillées, c'était quasiment impossible de faire des mouvements. Sur une plage à Boston, elle va se faire interpeller car elle portait sa création, donc le maillot de bain court, ce qui contribuera à faire sa publicité. Par la suite, elle va jouer dans de nombreux films en tant que danseuse et dans des ballets aquatiques. Ce fut la première femme à poser devant une caméra nue. Pour finir, elle publiera de nombreux livres sur la pratique sportive chez les femmes et un livre de contes pour la jeunesse. Elle mourra le 6 novembre 1975 à l'âge de 89 ans, après une vie très mouvementée, autant sur le plan féministe que sur la pratique sportive. Ses efforts auront permis aux femmes de revendiquer leur corps et de se le réapproprier. À sa demande, ses cendres sont dispersées au-dessus de la grande barrière de corail en Australie. Sirène un jour, sirène toujours. Vous pouvez retrouver toute l'histoire d'Annette Kellerman dans la BD Culottée, tome 1, de Pénélope Bagieux, qui est disponible au CDI.
C'est quand même bien, parce que déjà, elle est reconnue, elle, pour le coup.
Oui, c'est vrai.
Oui, je ne savais pas que le maillot de bain court était interdit avant.
Avant, elle se baignait en robe. Genre vraiment, elle, sur les plages, les femmes, elles étaient en robe, elles se baignaient avec 40 000 couches de tissu.
Moi, je m'imagine pas trop aller, par exemple, à la plage ou à la piscine et me baigner en robe, quoi.
Ben non, juste montrer, genre, un peu leurs jambes, c'était pas possible.
Il y avait ça, et puis imaginez déjà rien, juste en vêtements. Là, on est tous en sweat, jean, basket, etc. Quand vous êtes déjà tombé dans l'eau tout habillé, j'imagine, au moins une fois.
Oui.
Voilà, vous imaginez le poids des vêtements, l'eau qui s'imprègne dans les vêtements et le poids que ça fait. Donc imaginez une robe de cette époque-là avec tout ce que ça comporte de poids. C'est pour nager, comme elle le dit, hein, elle a essayé de traverser des choses comme ça en robe, c'est pas possible, quoi. Enfin, c'est déjà un exploit en soi que d'essayer de nager avec une robe, en fait. Donc voilà, c'est assez...
Et en plus, elle s'est fait interpeller sur une plage parce qu'elle portait son maillot de bain. Donc quand même, se faire interpeller pour ça, c'est...
Ben oui, parce qu'en fait, ça révélait les formes de son corps. Ouais. Et donc, c'est ça qui était gênant parce que, voilà, il y a des tableaux qui montrent parfois des nus la plupart du temps, mais il y avait aussi, pendant une période, des tableaux où montrer ne serait-ce qu'un mollet, c'est... Juste le bout d'un mollet, c'était scandaleux, quoi.
C'est vraiment n'importe quoi, quoi.
Ben voilà, c'est vraiment n'importe quoi. On met du temps avant de réfléchir. Alors qu'à côté de ça, ben voilà, les hommes pouvaient se balader tranquillement, sans souci, et puis nager avec le moins de vêtements possible et être à l'aise. C'est toujours pareil, hein. Qu'est-ce qui se passe ? Tu voulais dire un truc?
Je me souvenais plus si tu avais dit la date de du coup quand elle avait mis pour la première fois un maillot de bain court, du coup.
Non, je ne l'ai pas dit. Et je t'avoue, je ne l'ai pas trop. Mais je pense, si elle est née en 1886, plus 19 ans, 96.
Oui. Donc c'est quand même assez tard, quoi.
Ouais, 1906, quoi. Oui.
Et effectivement, tu as cité la BD de Pénélope Bagieu. Allez voir ses livres au-delà de celui-là. Enfin, tout ce qu'elle fait, c'est vraiment super. Donc voilà, s'il y a une autrice de BD qui peut vous plaire, je vous conseille fortement de lire ça. C'est vraiment, vraiment chouette.
Et puis, il y a plein d'autres super histoires autrice. Dedans. Enfin, il y a plein d'autres portraits de femmes.
Il y a plein d'autres portraits de femmes, effectivement. Et c'est une des autrices de BD aussi. Justement, elle s'est lancée dans ce truc-là parce qu'elle s'est retrouvée aussi confrontée à cette difficulté d'être éditée en tant que créatrice de BD femme, parce que souvent, c'est encore une fois, la BD c'est réservé un peu à un monde d'hommes. Et donc, la première autrice de BD femme qui a eu droit de cité, c'était Claire Bretéché dans les années 70. Et il n'y en a pas eu beaucoup derrière. Et voilà, et c'est une des rares à pouvoir enfin sortir des BD. Alors, il y en a de plus en plus maintenant, mais elle a ouvert aussi un peu la voie aux autrices de BD. Donc lisez Pénélope Bagieu, c'est vraiment chouette. Rose, je te laisse le micro.
Justement, nous allons voir donc une autre femme qui est dans cette BD aussi. C'est La femme à barbe qui va être présentée par Célestine.
Le programme Apollo,
le magazine du Collège Paul Bert,
a fait quoi ?
Sur Radar.
Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Clémentine Delay, aussi surnommée la femme à barbe. Elle est née le 5 mars 1865 à Chaumousey dans les Vosges. Pendant sa puberté, sa pilosité commença à se développer plus que la normale en ce qui concerne une jeune fille. Elle se rase donc fréquemment le duvet. À l'âge de 20 ans, Clémentine Delay se maria avec Joseph Delay. Ils travaillèrent tous les deux dans une boulangerie, mais ils durent arrêter car Joseph, son mari, souffrait de rhumatisme. Ils ouvrirent donc un bar. Clémentine Delay décida de se laisser pousser la barbe à l'âge de 36 ans, si bien qu'elle et son mari décidèrent de renommer leur bar le Café de la Femme à Barbe. Elle commença à se faire connaître. Clémentine Delay obtient même la permission de travestissement. C'était une autorisation obligatoire à l'époque pour qu'une femme s'habille comme un homme. Pendant la Première Guerre mondiale, elle fait partie de la Croix-Rouge. En effet, c'était la mascotte des poilus. Après la Première Guerre mondiale, un directeur de cirque spécialisé dans les phénomènes de foire propose à Clémentine de le rejoindre pour la somme de 3 millions de francs qu'elle refusa. Elle commença à effectuer les déplacements en Europe où de nombreuses personnalités la réclament, comme par exemple le prince de Galles. À la mort de son mari, elle rouvre un bar et elle y proposa des spectacles de cabaret. Elle meurt à Épinal le 19 avril 1939 d'une crise cardiaque. Vous pouvez retrouver toute son histoire dans le livre Culotté.
Oui, et d'ailleurs, j'ai vu aussi que si elle a commencé à se laisser pousser la barbe, c'est parce qu'elle avait vu une autre femme qui avait aussi une barbe. Et du coup, c'est pour ça qu'elle a laissé sa barbe pousser.
Ah oui. Sous l'influence, quoi.
Oui.
Mais je crois qu'il y a un film en ce moment sur la femme à barbe.
Oui, oui. Mais non.
C'est elle ou... Parce qu'il y en a eu d'autres, je crois.
Oui, je crois que c'est elle.
Ah ouais.
Okay. Oui, oui. Moi, je suis pas sûre, mais... Voilà. Est-ce qu'il y avait beaucoup d'autorisations pour s'habiller comme un homme à l'époque ou pas ? Je sais pas si tu sais.
Je sais pas du tout.
Là, en plus, c'est une autorisation de travestissement. C'est-à-dire que, en fait, c'est comme si on t'autorisait à te déguiser, en gros, quoi. Il faut que la femme demande le droit de s'habiller en homme pour pouvoir porter des pantalons, en fait. Et justement, la loi napoléonienne. Je reviens sur la femme à barbe. En fait, il y en a encore aujourd'hui. Il y en a une. Il y a une activiste. Alors, je ne sais pas si elle est libanaise ou, enfin, dans ces contrées-là, mais qui sur les réseaux sociaux. Montre que la pilosité n'est pas réservée qu'aux hommes. Et au-delà de des canons de beauté dans lesquels on veut nous mettre, à savoir s'épiler sous les bras et s'épiler partout, et il faut qu'on ait vraiment pas de poils nulle part, elle prône l'inverse. Elle dit les poils, c'est très joli, ça peut être très très bien. Et elle porte la barbe aussi. En fait, elle se rase régulièrement pour entretenir sa barbe, etc. Et donc, encore aujourd'hui, il y a des femmes qui revendiquent ça. Alors, est-ce que vous répondez à ce genre de truc et vous imaginez avec une barbe ou pas ?
Moi, j'aimerais pas trop avoir une barbe.
Ouais.
Moi, je m'imagine pas du tout, vraiment.
Aucune d'entre vous.
Non.
Alors, j'ai Mathis, là, toi, tu te laisserais pousser la barbe ou pas?
Ah oui. Ah oui, ça va un peu stylé en vrai.
Donc c'est intéressant que tu termines là-dessus parce qu'en fait revendiquer son appartenance à son corps, enfin en tout cas revendiquer le droit de faire ce qu'on veut de son corps, c'est super important mine de rien. Le fait simplement juste de vous épiler, quand on demande à toutes les femmes de s'épiler les jambes, qu'est-ce que ça vous fait vous?
Bah moi je trouve ça bizarre parce que pour les hommes on trouve ça normal.
Oui.
Normal.
Ouais.
Et pour les femmes on trouve ça crade. Enfin...
Ouais, ou pas beau.
Oui.
Pas esthétique en tout cas. Donc il y a une injonction à vous épiler tandis que les hommes on s'en fout. Et à vous mettre du vernis, et à vous mettre du maquillage, et à vous mettre du rouge à lèvres, et des trucs et des machins. Alors est-ce que vous êtes maquillage pour la plupart?
Absolument
non. Pas.
Pas du tout.
Non.
Un petit peu, mais pour les grandes occasions. Vas-y.
Pour les grandes occasions. Est-ce que vous mettez du vernis, par exemple?
Non,
moi, j'aime pas trop. Bah, moi, sachant que j'ai une grande sœur qui aime beaucoup faire les ongles, je suis un peu sa testeuse, on va dire.
D'accord. Et donc le vernis, ça, c'est... Est-ce que t'en mettras plus tard? Est-ce que vous mettrez du maquillage plus tard, peut-être?
Oui, je pense.
Bah,
oui.
Peut-être pour cacher, par exemple, les cernes ou des trucs comme ça, mais
oui.
Sinon, pas vraiment. Pas
un full face, quoi.
D'accord, donc il voilà. y a quand même un besoin de cacher des défauts ou des choses comme ça, mais d'où ça vient ce besoin de cacher des défauts? Parce que nous, les hommes, on ne se pose pas la question, on a un bouton, on a des cernes, quoi.
Bah, ça peut être par des remarques, par exemple, de gens qui nous disent « Ah, t'as des cernes » ou « Ah, t'as des boutons » ou quelque chose
parce que
ça.
Souvent, c'est des garçons qui nous disent « Ah là là, vous avez des boutons, ah machin. »
Et voilà, et en fait, c'est encore une fois les hommes qui vous disent « Mais dis donc, t'es un petit peu moche, ce serait bien que tu mettes un petit peu de maquillage. » Pour cacher ta mocheté. Donc, faut pas les écouter. En fait, vous faites ce que vous voulez. Hein. Vous êtes comme vous êtes. C'est à nous d'apprendre à vous accepter comme vous êtes. C'est surtout ça le truc.
Bah, par exemple, plutôt sur l'acné, on dit souvent t'es une calculatrice ou un truc comme ça.
Ouais, mais ça, les garçons, ils en ont aussi hein, de l'acné. Il y a eu du harcèlement comme ça sur l'acné des garçons aussi. Ça c'est unisexe, ça, ce truc-là. Mais bon, quand les filles ont des boutons, c'est vrai qu'on ne manque pas de leur faire remarquer.
Sauf qu'il y a toujours des garçons qui se moquent, en fait, ça se termine jamais, quoi.
Ah là là. Et alors, la solution, c'est quoi?
De les cacher.
Ah, ouais. Alors toi, tu obéirais aux garçons pour dire « Ouais, ok, d'accord, je vais cacher mon truc. »
Bah oui, mais au moins, ils arrêtent.
Ah, ouais.
Non, le mieux, ce serait de leur dire d'arrêter et vraiment qu'ils arrêtent. Enfin,
ils arrêteront pas.
Est-ce que ce serait pas plutôt de s'en fiche un peu et de dire « Je suis comme je suis » et puis voilà.
C'est compliqué. Hein.
C'est compliqué, ouais.
Bah moi je mets plutôt par exemple je me lave le visage avec des produits adaptés par exemple.
Mmh.
Voilà, plutôt c'est plutôt comme ça.
Et donc il y a encore une grosse éducation à faire au niveau des garçons.
Oui.
En tout cas pour
de toute façon, si on dit aux garçons ouais, arrêtez tout, ils vont pas nous écouter, ils vont encore plus se moquer, donc autant rien dire.
Donc aussi après il faut riposter, il faut leur dire un peu la même chose qu'ils nous disent mais en façon garçon.
Ouais,
comme
donc...
ça au moins ils arrêtent.
Alors, il y en a une qui dit il faut rien dire, il faut laisser faire et puis tant pis. Et toi, tu dis non, faut riposter, faut pas se laisser faire, il faut montrer les dents. Alors, c'est quoi la meilleure solution à votre avis?
Bah, moi, je pense que c'est plutôt riposter. Hein.
Ouais, j'avoue.
Bah, après, ça peut être les deux. Comme ça, on cache et après, on leur riposte. Comme ça, ils peuvent plus rien nous dire. Après.
Ouais.
Moi, je trouve que c'est pas vraiment bien de se cacher parce que du coup, t'es pas toi-même en fait. Enfin, tu te caches de des.
C'est un bouton, hein, c'est pas. Un bouton, c'est pas la mort. Ouais.
Ou une moustache, ça peut arriver aussi. Une moustache, on sait jamais. Mais voilà, vous êtes comme vous êtes. Après, que les garçons vous disent si ou ça, machin. En fait, il y a pas vraiment de solution. C'est déjà pas provoquer, c'est une bonne chose. Garder le silence et puis faire ce qu'on a envie de faire, parce que de toute façon, chacun fait ce qu'il veut. En fait, c'est surtout ça. La meilleure réponse à apporter, c'est « mais je fais ce que je veux et tu fais ce que tu veux ».
C'est rester soi-même.
Voilà, exactement. On va rester sur ce mot de la fin, restez vous-même. Merci pour cette émission spéciale, un petit peu plus longue que d'habitude. Merci à Rose d'avoir pris le micro, parce qu'à chaque fois c'est Malone et ça fait du bien d'avoir une fille au micro aussi. Ça va, c'était pas trop dur?
Non, ça va.
Ça sonne derrière nous. Tu conclus?
Oui.
Attends,
Oui, j'ai aussi oublié de... Enfin, j'ai un truc à dire. La chronique a été faite par Elisa.
Ah yes, merci pour elle. Et puis c'est Mehdi à la technique. Voilà. Rose, conclusion.
Et du coup, vous pourrez nous retrouver cette émission, réécouter cette émission en podcast sur Radar. On vous dit bonne journée et merci de nous écouter et à la prochaine fois.
Salut. Le programme Apollo.
Le programme Apollo.
5, 4, 3, 2, 1.
Le magazine du Collège Paul Bert. Actu,
interview,
culture,
sport,
cinéma,
littérature,
actu du collège,
blague,
le programme Apollo,
les étoiles de l'info,
jusqu'au bout de la news.
Jusqu'au bout de la news.